Europe 1, Culture Média.
Ce pianiste qui se moque de la marche turque, c'est André Manoukian. Il publie un nouvel album très personnel, jazz et oriental, le titre Anouche. C'était le prénom de sa grand-mère arménienne, obligée de faire 1000 km à pied en 1915, déportée par les Turcs. Ceci explique cela, la marche turque. André Manoukian, vous l'avez compris, est notre invité en deuxième heure. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pas mécontent de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'Offenbach, la Péricole, et de Jean Gabin. Le trio de choc sera là, Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage et Louise Bernard évidemment pour le journal des médias et les audiences d'hier soir. Notre invité média, l'homme qui s'apprête à faire les plus grosses audiences de la télévision depuis 4 ans et même à battre peut-être le record si la France arrive en finale, vous allez comprendre pourquoi, c'est Bichente Lizarazu qui va commenter pour TF1 la Coupe du Monde au Qatar avec Grégoire Margoton. Lizarazu fait partie de l'équipe mythique qui a gagné la Coupe du Monde 3-0 contre le Brésil. C'est l'un des très proches de Didier Deschamps qui est également le sélectionneur de l'équipe. Comment ça se passe quand ils ne sont pas d'accord tous les deux? C'est parfois cornélien. Bichente Lizarazu nous dira. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Louise, au sommaire de votre journal des médias.
Votre feuilleton préféré continue Philippe.
Twitter.
Elon Musk et Twitter, on a encore du nouveau, mais c'est pas drôle du tout, vous allez le voir. Le retour aussi d'une émission, l'effet papillon, vous vous souvenez de cette émission?
Évidemment.
Elle va peut-être revenir, je vous donne tous ces détails.
De mémoire, c'était présenté par Victor Robert sur Canal.
Oui, puis Daphné Roulier pendant
exactement,
beaucoup,
également.
Plus d'années je crois. Ouais. Un journaliste français va boycotter la Coupe du Monde, enfin en partie, et puis au Qatar justement, il y a eu un incident avec un journaliste danois, je vous raconte ça. En fin de journal, pourquoi Nikos ne présentera pas les Energy Music Awards cette année?
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium, Louise.
Ils ont regardé le téléfilm sur France 2, hein, Après le silence, 3 330 000 téléspectateurs hier soir, 16,4% de part d'audience. Deuxième, c'est la nouvelle série américaine de science-fiction La Brea, hein, qui continue d'être diffusée sur TF1, 2 570 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 2 200 000 devant le deuxième, 12,1 part d'audience en moyenne. Et puis troisième, c'est M6 avec Le Meilleur Pâtissier qui est en hausse, hein, 2 210 000 téléspectateurs hier soir, 12,2% de part d'audience pour ce divertissement.
Europe 1, le journal des médias.
Donc, notre feuilleton, le eh point oui. Elon Musk Twitter du jour, le lancement de l'abonnement payant Twitter Blue est retardé.
Oui, décalé à la fin du mois, au 29 novembre, pour être sûr qu'il soit béton, d'après les mots du nouveau patron du réseau social. Il devait pourtant avoir lieu ce lancement en fin de semaine, mais plusieurs incidents la semaine dernière ont convaincu Elon Musk de le repousser, car Twitter a proposé ce nouvel abonnement en avant-première la semaine dernière, donc aux utilisateurs équipés d'iPhone. En payant 8$ par mois, n'importe qui pouvait désormais voir son compte certifié, c'est-à-dire avoir un petit logo bleu à côté de son nom. Alors jusqu'à présent, c'était une fonction réservée à certaines personnalités publiques ou à des institutions, des médias, des journalistes, une fonction qui signifiait donc que l'identité du propriétaire du compte était vérifiée. Mais maintenant que n'importe qui peut obtenir ce petit logo, certains utilisateurs se sont amusés. Ils ont donc payé un abonnement et ils ont usurpé l'identité de plusieurs personnalités publiques, comme Joe Biden ou encore une entreprise pharmaceutique. Avec un faux compte donc, qui possédait ce petit logo, il a été annoncé que l'insuline était gratuite pour tous. Résultat, l'entreprise a perdu plusieurs milliards de dollars. Et oui, je vois votre tête
ébahie. En milliards,
ébahie,
c'est pas des millions, des milliards.
Et présenté ses excuses. Le nouvel abonnement a donc ensuite été suspendu par Twitter, qui préfère peaufiner les réglages. Elon Musk lui assure qu'à la venir. Si un compte change de nom, il perdra son petit logo bleu tant que Twitter n'aura pas vérifié son identité.
Elon Musk qui demande aux employés de Twitter de s'engager à, je cite, « travailler de longues heures à haute intensité ».
C'est ce qu'il a écrit dans un mail interne que plusieurs médias ont pu consulter. Il ne s'arrête pas là. Il a en fait posé un ultimatum aux salariés. Écoutez bien, ils ont jusqu'à aujourd'hui 17h heure de New York pour indiquer s'ils acceptent. Ils doivent donc cliquer sur une case « oui », sinon « ils seront licenciés et partiront avec 3 mois de salaire en guise d'indemnité. Elon Musk a justifié sa demande par ces mots. Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous allons avoir besoin d'être à fond. à l'extrême. Extrême, c'est bien le mot.
Voilà, je repose la question. L'émission L'effet papillon va-t-elle être bientôt relancée?
C'est en tout cas ce que souhaite l'agence Capa, hein, qui produisait l'émission pour Canal+. Elle lance un financement participatif pour obtenir les fonds pour la conception de 6 nouveaux reportages. Elle espère ainsi obtenir 100 000 euros grâce à la contribution des internautes. Pour ceux qui ne connaissent pas L'effet papillon, en fait, c'était une émission de reportages internationaux avec un regard décalé, des sujets qu'on ne voyait pas ailleurs, hein, sur des tendances de société lointaines, mais qui finiraient bien par arriver chez nous, toujours avec une pointe d'humour. C'était diffusé sur Canal+. Mais là, pour l'instant, aucun diffuseur télé n'a voulu reprendre l'émission et donc la financer, ce qui fait que les nouveaux reportages seront, eux, disponibles sur Internet. L'ancien et futur rédacteur en chef de l'émission, Anthony Orléans, m'a expliqué comment l'équipe avait eu l'idée de relancer l'effet papillon en ligne.
Qui n'a pas eu l'intelligence de garder le nom, en fait, et le concept de l'émission. Et on a obtenu un deal avec Canal+, pour pouvoir nous exploiter les archives, les mettre en ligne. Et on s'est aperçu qu'il y avait un succès conséquent. C'est-à-dire que des sujets, même parfois très anciens, continuent d'être regardés par toute une communauté de fans sur les plateformes en ligne, type YouTube, Facebook, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas capitaliser sur ce succès, sur cette mémoire que les gens ont de cette émission, de la joie qu'ils avaient à la regarder, pour essayer de la relancer et de la relancer en ligne.
Relancer l'émission, oui, mais pas à l'identique, hein, pas avec les codes à l'ancienne, ceux de la télévision, plutôt ceux des réseaux sociaux.
Il va y avoir des sujets avec de nouveaux journalistes, plus jeunes que ceux qui l'ont fabriqué à l'époque, et donc qui ont ce langage des réseaux sociaux. Et on essaye de faire des sujets où il y a énormément d'incarnations, énormément de commentaires du journaliste sur ce qu'il est en train de voir et de vivre. Les sujets seront tous tournés au smartphone. On va découper les reportages en fonction de la plateforme sur laquelle ils seront diffusés. C'est des reportages de 8 minutes, à peu près. On pourra aussi les rassembler, c'est-à-dire les sujets d'une même destination, par exemple. Vous avez 3 fois 8 minutes, donc ça fait 24 minutes, que vous pouvez assembler pour une diffusion sur YouTube. Donc vraiment, on essaye de rendre ces sujets plus souples, plus plastiques, pour être au-delà d'une simple diffusion télé comme à l'ancienne.
Et si l'équipe arrive à récolter suffisamment d'argent, elle promet déjà 3 reportages aux États-Unis, dont celui-ci.
Salut à tous, c'est Gary à Austin, dans le sud des États-Unis, Austin, capitale du Texas, un état ultra conservateur. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comment le téléphone portable est utilisé par les anti-avortements, les pro-life, comme arme pour aller traquer les jeunes femmes et les femmes qui veulent se faire avorter.
Et oui, l'effet pape revient, enfin pourrait revenir. Gary vient de tourner cet extrait, la suite, ça va dépendre de vous.
La suite, c'est le financement participatif donc, qui vient d'être mis en ligne il y a 2 jours et près de 100 000 euros ont déjà été récoltés.
C'est l'effet pape. Contrairement à Lisa Razou, je le cite parce que c'est notre invité dans 20 minutes, Samuel Etienne va boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar sur sa chaîne Twitch.
Oui, le journaliste ne relaiera pas les résultats des matchs lors de ses directs sur la plateforme, alors qu'il propose régulièrement à ses très nombreux abonnés des rendez-vous d'information, notamment des directs pendant lesquels il lit les journaux et commente l'actualité. Alors pourquoi a-t-il pris cette décision? Il a expliqué sa démarche sur Twitter. Les raisons ne manquent pas, dit-il. Il cite les conditions de travail pour la construction des infrastructures, le nombre de morts sur les chantiers, les aberrations écologiques aussi, hein, des stades climatisés, la problématique des droits de l'homme au Qatar, notamment les droits des femmes et des LGBT+, enfin les soupçons de corruption pour l'attribution de ce mondial. Autant de raisons qui l'amènent à s'engager à ne rien partager sur les résultats sportifs du mondial. En revanche, il précise qu'il continuera de parler du Qatar pour toutes les informations extra-sportives. Il écrit avoir conscience que c'est une modeste initiative qui ne changera rien à ces mondiaux, mais pour lui, impossible de faire comme si de rien n'était. Et il conclut son annonce par ces mots. Imaginons maintenant un instant qu'à travers le monde, des millions de téléspectateurs, malgré leur amour du ballon rond, se désintéressent des matchs face à des audiences en berne et au manque à gagner pour les diffuseurs. Peut-être que la FIFA réfléchirait-elle alors à 2 fois avant d'ignorer les droits de l'homme et à l'environnement avant d'attribuer les prochains mondiaux. Fin de citation. Bon, à noter que Samuel Etienne sera contraint de parler du mondial ailleurs que sur Twitch, sur la chaîne France Info, puisqu'il y présente la matinale et France Télévisions n'a pas décidé de boycotter la Coupe du Monde. Bruno Donnet analysera cette annonce tout à l'heure dans les télescopages vers 9h45. Okay.
Au Qatar, justement, certains journalistes sont déjà sur place pour couvrir la Coupe du Monde et un incident a eu lieu avec un journaliste danois.
Oui, Rasmus Tantold était en direct pour sa chaîne danoise TV2 depuis une rue de Doha, la capitale, alors qu'il est interrompu. Il est alors interrompu par les services de sécurité locaux. Un des hommes met sa main sur la caméra pour signifier une interdiction de filmer. On y voit et on y entend alors le journaliste défendre son droit de travailler. Il leur dit « Vous avez invité le monde entier, pourquoi ne pourrions pas nous filmer dans un lieu public ?» Puis il montre son accréditation, c'est-à-dire son autorisation officielle pour filmer. Bon, ça ne semble pas convaincre pour autant les agents. L'un d'eux tente même de saisir le matériel. La vidéo s'interrompt alors. Ce sont des images qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Rasmus Tantold, le journaliste, a indiqué avoir ensuite reçu des excuses des autorités, du Bureau international des médias au Qatar et du Comité suprême. Mais il a aussi ajouté « On peut dire que ces agents ont mal compris la situation. » Ça en dit long, cependant, sur ce qui se passe au Qatar. On peut y être attaqué et menacé quand on fait un reportage en tant que média. Ce n'est pas un pays libre et démocratique.
Tout à fait autre chose, Nikos Aliagas ne présentera pas les Energy Music Awards demain soir, comme il était prévu.
Oui, ça aurait dû être sa 13e cérémonie, mais le présentateur s'est blessé samedi soir sur le plateau de la Star Academy. Une chute hors antenne qu'on n'a absolument pas vue. Il a continué d'animer la soirée comme si de rien n'était. Mais depuis, il a besoin d'être préservé. Impossible donc pour Nikos Aliagas de se rendre à Cannes pour animer la cérémonie des Energy Music Awards demain, car il y a, rendez-vous compte, le déplacement, il y a les répétitions, il y a les 3 heures de direct à assurer. Or, il a aussi un prime le lendemain, samedi soir, la demi-finale de la Star Academy. TF1 me dit que c'est bien lui, en plus, qui sera aux commandes. Et puis ensuite, selon nos informations, il enchaîne aussi avec les enregistrements d'une nouvelle saison de The Voice dès lundi.
Et c'est Camille Combal qui va présenter Nikos pour les Energy Music Awards. Il lui a envoyé un petit message sur Twitter hier. Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, on va revenir sur un essai passionnant sur les rivalités entre femmes. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Il n'y a rien de pire que les femmes entre elles. C'est le sous-titre d'un essai intitulé Rival. C'est publié chez Flammarion. Résumons, en matière de beauté, dans les rapports mère-fille ou dans le monde du travail, les femmes s'avèrent très dures les unes envers les autres. Dans une société qui demeure patriarcale, les places des femmes sont chères et il faut, ai-je lu, se battre pour s'imposer. Cette règle est vraie également dans les médias. Qu'est-ce que le syndrome de la Schtroumpfette? Pourquoi les femmes sont-elles rares et rarement plusieurs en même temps sur un plateau de télé? Pourquoi une animatrice de télé met-elle volontairement en difficulté sa jolie chroniqueuse? C'est un sujet tabou dont parle ce livre Rival. Notre invitée est l'auteur de cet essai, Marie-Aldine Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et rédactrice en chef de l'émission Le Grand Échiquier sur France 3. Vous avez notamment occupé ce poste à Ce Soir ou Jamais sur France 3 également et 28 minutes sur Arte. Vous êtes la co-auteure avec votre sœur Anne-Sophie du best-seller La femme parfaite est une connasse, qui a été un carton en librairie, c'était sorti en 2013. D'abord, le point de départ de ce livre que vous avez écrit toute seule, Rival au pluriel.
Alors le point de départ, c'était une volonté d'écrire sur la sororité. C'est un mot que je voyais de plus en plus souvent apparaître sur les pancartes, dans les manifestations ou dans les articles. Et quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit « c'est bien d'écrire sur la sororité, mais il n'y a rien de pire que des femmes entre elles ». Et je me suis rendu compte que cette phrase, je l'avais entendue toute ma vie, sans jamais l'interroger. Et j'ai eu envie de me poser et de l'interroger et d'interroger d'autres femmes sur cette phrase.
Je ne peux pas répondre à votre place puisque je ne suis pas une femme. Est-ce que vous-même, vous l'êtes déjà dit, il n'y a rien de pire que les femmes entre elles?
Je pense que j'ai pu me la dire, mais surtout je l'ai laissé dire comme un fait, comme quelque chose avec lequel on devait vivre et qu'on n'avait plus besoin d'interroger aujourd'hui.
Expliquez la méthodologie de ce livre. Il est à base de rencontres, d'interviews.
Exactement, un certain nombre de femmes. Alors je pense que j'ai dû en interviewer ou entretenir, parce que c'est aussi autour de discussions, d'apéros ou d'interviews plus formelles que j'ai entendu pratiquement une centaine de femmes. Il y a un peu plus d'une quarantaine de témoignages dans le livre. Et la volonté aussi d'avoir des femmes d'horizons différents, d'âges différents. À qui j'ai posé cette question, alors il n'y a rien de pire que des femmes entre elles.
Il y a évidemment un avant-propos comme dans chaque essai. Et puis le premier chapitre est emblématique, c'est la distinction entre rivalité et compétition. C'est quoi justement cette distinction?
Alors, je pense que tout se joue justement sur cette nuance. J'ai une sœur jumelle Et toute ma vie, en fait, j'ai été en compétition avec elle, mais une compétition saine. C'est-à-dire que l'autre femme était celle qui me soutenait, qui me faisait évoluer, qui me challengeait. Et il y avait quelque chose de magnifique dans cette compétition. La rivalité, en revanche, n'est pas saine. Parce que justement, ça fait appel à un manque de confiance, ça résonne avec ce syndrome de l'imposteur, notamment, dont il est beaucoup question dans le livre. Mmh. Et quand on parle de la théorie de la schtroumpfette, c'est que dans le village...
Racontez, c'est passionnant. Non, non, je vous interromps parce que c'est absolument passionnant. Qu'est-ce que le syndrome de la schtroumpfette? C'est pas un concept de vous, c'est un concept américain que vous avez très bien expliqué et déployé.
Exactement, qui a été écrit dans les années 90. C'était un article du New York Times, en fait, c'était une journaliste qui parlait de séries et qui parlait justement, donc, dans le village des schtroumpfs, il y a une schtroumpfette. Alors déjà, elle est décrite de façon stéréotypée, c'est-à-dire elle est blonde avec sa petite robe, etc. Chaque schtroumpf a une caractéristique, il y a des drôles, il y a timides,
il y a
machin.
Non. Il y a joyeux, il y a grognon, il y a timide.
Alors ça, c'est plus chez les sept nains, mais oui, chez les schtroumpfs, c'est un peu le même truc. Mais c'est un peu ça.
Ouais.
C'est un peu ça, mais la schtroumpfette reste une schtroumpfette. C'est une femme. Elle n'a pas d'autres caractéristiques. Déjà, on s'en fiche, c'est une femme. Bon, voilà, déjà, elle est posée comme ça. Et puis, on se rend compte, en fait, qu'il n'y a qu'une schtroumpfette dans le village des schtroumpfs. Et qu'en fait, elle n'est pas assez bête pour laisser sa place à une autre. Si notre femme arrive, une autre schtroumpfette arrive, eh bien, en fait, elle va essayer de s'en débarrasser parce qu'il n'y a qu'une place. Et dans les médias, notamment, on se rend compte très souvent qu'il n'y a qu'une seule place. Et ça explique le fait qu'on voit l'autre comme une menace. C'est pas qu'on est mauvaise, ouh, la méchante, etc. Pas du tout. C'est qu'en fait, il y a tout un système qui est mis en place pour ne pas nous permettre, en fait, d'être plusieurs. Je donne un exemple très précis. On discutait autour d'un plateau d'humoristes, vous voyez, où on réunit différents humoristes pendant une heure à la télévision. Et à un moment, je donne un nom et on me dit « Ah non, non, c'est bon, on a une femme. » On a une femme. Il y avait 10 humoristes à trouver. Donc, en fait, on avait nos petites catégories.
On en a
catégories.
Déjà une.
On en a déjà une.
Ah ben, il y avait une femme qui avait été bookée. Ça suffisait.
Ça suffisait.
Ça faisait le quota de la schtroumpfette.
Exactement. Et bien sûr, tout ça participe à voir l'autre comme une menace.
Et vous racontez aussi l'histoire d'une humoriste que vous ne citez pas, qui exigeait de sa société de production qu'elle ne produise pas d'autres femmes qu'elle.
Exactement. Mais en plus, en ayant discuté, ce n'est pas une humoriste, c'est beaucoup d'humoristes. En fait, c'est quelque chose. Et moi, encore une fois, je ne les pointe pas du doigt parce que, en fait, elles ont raison quelque part. C'est ce qui arrive. Eh bien, en fait, c'est que, effectivement, s'il y en a plusieurs, comme les places sont chères, quand il y a une seule place, par exemple, sur un plateau d'humoriste, elles avaient raison de ne pas faire monter les autres, jusqu'à maintenant.
Mais pourquoi on ne ferait pas un plateau d'humoriste avec trois femmes ou quatre femmes?
Parce que c'est les hommes qui les organisent. Jusqu'à maintenant, et c'est eux qui décidaient du système, ça arrange aussi beaucoup de monde qu'il y ait peu de femmes et que ça amuse aussi, qu'elles se crêpent le chignon. Qu'est-ce qu'il y a de plus drôle pour, alors je ne vais pas dire les hommes, on va dire le système patriarcal. Mais effectivement, à chaque fois, je me pose la question, à qui profite le crime?
Ça va
un
même,
système.
Ça va même plus loin. Vous ne donnez pas le nom, donc je ne vais pas vous le demander. Mais également le cas de cette animatrice qui part en vacances, comme ça arrive parfois, une émission s'arrête et on est remplacé. Et qu'elle demande expressément à la chaîne ou à sa production, je ne sais plus, qu'elle soit remplacée, mais pas par une femme.
Oui, oui, c'est une histoire aussi qu'on m'a racontée, mais je pense qu'elle est vraie, puisqu'on a tous été en plus confrontés, travaillant dans les médias, à ce genre de volonté.
Ouais.
Et de... Mais en même temps...
Je vais vous dire ce qui me frappe dans cet exemple,
dites-moi.
C'est que j'imagine qu'elle n'a que le mot sororité à la bouche.
Bien
et
sûr.
Qu'elle-même dénoncerait ce comportement si on lui racontait... sans se rendre compte, tout en se rendant compte qu'elle l'applique à elle-même et aux autres.
Totalement. Mais je pense que moi-même, en écrivant ce livre, je me suis questionnée là-dessus, parce que moi-même, en assistant à des scènes de misogynie ordinaire comme celle-ci, parce que même si ça vient de femmes, ça reste de la misogynie. La misogynie n'est pas que l'apanage des hommes. Les femmes se comportent aussi de façon misogyne et je pense que moi, j'ai laissé faire. J'ai assisté à ça aussi dans les médias toute ma vie et je pense que j'ai été complice aussi de ça.
Livre passionnant, sujet tabou, on n'a pas encore épuisé le thème. Culture Média continue, Rival, c'est signé Marie-Aldine Girard, elle est notre invitée sur Europe 1, à tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
en compagnie de Marie-Aldine Girard qui signe Rival au pluriel, sous-titre entre guillemets, il n'y a rien de pire que les femmes entre elles, c'est un sujet tabou, c'est la compétition, plutôt la rivalité entre les femmes plutôt que la compétition que vous jugez saine et la rivalité malsaine, c'est un essai publié chez Flammarion. Dans le milieu professionnel largement dominé par les hommes, et les médias n'échappent pas à la règle, même si ici la patronne, je la salue, c'est Constance Benquet, c'est une femme qui dirige Europe 1, les femmes auraient tendance à être plus dures entre elles. C'est ce que vous appelez le syndrome de la reine des abeilles. Expliquez-nous ce concept. Quels exemples pouvez-vous donner?
Alors, c'est un concept qui a été étudié puisqu'il date des années 70-80. Hein. C'est moi, voilà, je fais juste référence parce que j'ai été surprise, voire choquée par les chiffres. Le chiffre qui est avancé, c'était que lorsqu'une femme monte dans la hiérarchie d'une entreprise, les autres femmes ont 80% de chances de moins de monter également. C'est-à-dire que on pourrait naïvement penser, puis surtout qu'on parle des années 70, on sort, voilà, les femmes entrent quand même dans le travail, et on pouvait imaginer qu'une femme qui monte dans la hiérarchie allait tendre la main aux autres femmes, et c'est tout le contraire en fait qui se passe.
Elle ferme les portes derrière elle.
Elle ferme les portes derrière elle, et pire que ça, elle tente, et c'est un réflexe qu'on peut avoir et dont on pourra peut-être parler après, aussi d'essayer de ne pas être associée au genre féminin. C'est-à-dire que très vite, on va être adoubé par ceux qui sont en haut. Et qui est en haut? Ce sont les hommes. Et essayer aussi de prendre leurs caractéristiques, de parler le même langage et de gommer tout ce qui peut être féminin, qui peut être associé à la futilité, à la fragilité, à ce qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est enfant. Mmh. Et voilà, c'est quelque chose qui a tendance à se perpétuer. Alors moi, j'ai découvert le monde du mentoring. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et qui est en train de vraiment de changer. Et ces femmes qui se prennent par la main, qui se font aident les autres à monter. Et je trouve ça merveilleux.
Mentoring, comme le mot un mentor.
Exactement.
Vous parlez du regard que portent les hommes sur les femmes. Et vous dites que là aussi, il y a une sorte de compétition entre elles, comme si elles voulaient recueillir ce regard, je ne sais pas, le capter, je ne sais pas trop comment dire les choses.
Mais je pense que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'avais qu'une envie, c'était de ne pas parler des hommes. En fait, je voulais parler de femmes, entre femmes, pour les femmes, et puis se dire à nous voir discuter et penser sans eux, ils s'habitueront. Et je me suis rendu compte que c'était impossible parce qu'ils sont au centre de tout. Et que la rivalité, effectivement, vient aussi de vouloir être aimable aux yeux des hommes. Quand je donne un exemple, par exemple, concret avec ma sœur jumelle qui est humoriste, on a toujours dit, nous, on a des humours de mecs. On a un humour de mec. Et en fait, maintenant que je questionne cette phrase, pourquoi j'ai dit ça toute ma vie? Parce qu'en fait, on nous a fait croire que les femmes n'avaient pas d'humour. Et donc, j'ai participé aussi à ça, à ne pas vouloir être associée au genre féminin, justement, alors qu'il n'y a pas d'humour de meuf. Et quand bien même il y en aurait un, c'est le mien, il est génial. Donc, j'ai envie de le valoriser. Maintenant.
Ou alors, il y a des thèmes pour répondre à cette question et à ce cliché. Il y a des thèmes. Si une fille parle de ce qui se passe en dessous de la ceinture, elle va tout de suite passer pour une fille facile, alors qu'un garçon peut faire des blagues et après aller au dîner dans un restaurant tranquillement.
Tout à fait.
On va entendre une archive, puisqu'on parle du regard et de la rivalité entre les femmes qui sollicitent le regard des hommes. C'est Agnès Varda, on est en 1977, Agnès Varda, immense cinéaste, c'est dans l'émission Passage des Arts, on l'écoute et on en parle.
La tendresse envers les hommes passe par la tendresse envers les femmes. J'allais dire, il faut déjà que les femmes que nous sommes apprennent à se reconnaître entre elles comme non compétitives, non salopes, disons, en gros. Et à partir de là, automatiquement, la tendresse se fera envers les hommes aussi. Le film a ceci de particulier qu'on n'y voit pas beaucoup les hommes. Mais qu'on ne considère pas qu'ils sont nos ennemis, voilà, c'est ça. Mais par contre, je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place. Ça, c'est un petit peu dur à avaler, je crois, mais...
Il faudra qu'on se parle.
On peut peut-être le dire gentiment, mais je crois que la vie des femmes qui travaillent, qu'elles fassent du cinéma ou qu'elles fassent autre chose, ou qu'elles travaillent dans des tâches moins privilégiées ou moins amusantes ou moins particulières, la vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
Oh, cet extrait, il m'émeut, je le trouve incroyable. Après, c'est triste parce que je me rends compte aussi que c'était il y a une trentaine d'années et que voilà, l'évolution est très lente. Mais il y a des femmes formidables justement pour faire circuler cette parole-là.
77, c'est presque une cinquantaine d'années.
Ah, d'accord.
77.
Ah, oui.
On parlait du regard que portent les hommes sur les femmes. Maintenant, on va parler du regard que portent les femmes sur les femmes. On est une émission média. Dans les médias, il y a les réseaux sociaux. Et vous consacrez une réflexion à Instagram dont vous dites que ce réseau social s'avère un lieu de la rivalité féminine et de paradoxe. Et vous citez Lucie, elle a 24 ans, je pense que ce n'est pas son vrai prénom, vous avez raison de la protéger. Racontez la manière dont elle like les photos de ses copines.
Bah, elle m'explique qu'elle est la première à critiquer, et elle utilise le terme « bitché » justement sur les photos de ses copines, mais qu'elle se force à liker parce qu'elle sait que sa copine va voir le like, alors que derrière, elle critique, ou alors elle te dit « Oh mon Dieu, qu'elle est vilaine sur cette photo !» et elle commente devant moi « Oh ma belle, mais tu es magnifique sur cette photo !» Et en fait, on se rend compte de toute la schizophrénie du truc dans lequel on est rentré, et justement, les réseaux sociaux exacerbent tout ça.
Expliquez ce paradoxe.
D'autant
qu'elle dit en plus, je ne sais plus si c'est la même ou une autre, qui raconte que ça la fait souffrir de voir les gens qui étalent leur bonheur sur Instagram, mais qu'elle ne peut pas s'empêcher d'y aller. Ce qui me paraît pour moi hors de l'entendement, du bon sens. Si quelque chose fait souffrir, je ne le fais pas. Bah c'est impossible.
C'est parce que vous n'avez pas les réseaux sociaux. Si vous aviez Instagram, vous pourriez comprendre.
Je ne l'ai pas.
Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui me dise qu'il n'a jamais ressenti ça quand on arrête Insta, qu'on n'a pas une petite boule au ventre en se disant donc ils étaient à cette soirée. Ils ont une vie merveilleuse, tout le monde est beau, tout le monde a une vie incroyable et nous, ça nous renvoie à notre vie de merde. Et effectivement, parce qu'à ce moment-là, c'est le sentiment qu'on a. Et on a cette petite boule au ventre. Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais oui, je peux.
Est-ce que c'est symptomatique des réseaux sociaux ou est-ce que c'est symptomatique encore plus des femmes sur les réseaux sociaux? Parce que c'est ça le cœur de votre sujet.
À chaque fois, je me suis posé cette question et je me suis dit, bon, ce n'est pas le sujet du livre, parce que je pense qu'effectivement, les hommes pourraient, mais libre à eux d'écrire leur livre à eux. Mais effectivement, là, c'est concentré sur les femmes.
On est une émission média, ça fait deux fois que je le dis, mais c'est parce que c'est la vérité. Il y a également aussi parfois la rivalité féminine qui est exacerbée par la presse. La presse adore titrer sur la rivalité des femmes. Je me souviens que quand Claire Chazal et Laurence Ferrari présentaient les journaux de TF1, ça faisait les choux gras de la presse alors qu'elles s'entendaient très très bien. Et ça avait été monté par la presse écrite pour vendre du papier.
Je me souviens de cette couverture, la rivalité des blondes. D'un seul coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre en rivalité alors qu'on ne ferait jamais ça pour un homme. Mais il y a cette difficulté. Pourquoi dans les médias? C'est aussi parce que c'est un métier d'image et que les femmes qui vieillissent ne plaisent plus à la direction. Une femme, le nombre de fois où j'ai entendu on la prend, elle est plus fraîche, elle est fraîche, elle est fraîche. C'est un mot que je ne peux même plus entendre.
Même venant de la part d'une femme?
Mais même venant de la part d'une femme. Moi, je sais que ma sœur jumelle est humoriste et elle est comédienne et elle me dit, mais c'est pour rigoler, mais elle dit pour une femme c'est comme pour un chien, il faut multiplier par 7 l'âge, c'est une souffrance, c'est quelque chose effectivement qui voilà, qui sur lequel il faut se pencher
et travailler. Marie-Aldine Girard, merci d'avoir été avec nous. Rival, essai passionnant sur un sujet tabou, c'est sous-titré Il n'y a rien de pire que les femmes entre elles, c'est publié chez Flammarion. On se retrouve dans un instant avec un champion du monde. Il est le consultant foot de TF1, Bichente Lizarazu. On parle évidemment de la Coupe du Monde au Qatar qui démarre dimanche. On va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. Et là aussi, ça va se télescoper l'actu foot. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevrons Bichente Lizarazu, le consultant foot de TF1. On va parler évidemment de la Coupe du Monde au Qatar qui démarre dimanche. Et on en parle aussi dès maintenant avec les télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les curiosités médiatiques. Et à 3 jours du début de la Coupe du Monde de foot au Qatar, c'est dimanche, vous voulez nous dire un mot du premier match de la compétition.
Oui, car la toute première confrontation, Philippe, a déjà commencé. Et c'est un match de communication. Une opposition frontale, virile et pas toujours très correcte entre, d'un côté, ceux qui souhaitent utiliser le mondial comme caisse de résonance médiatique pour alerter sur les problèmes de respect des droits de l'homme et de l'environnement, et de l'autre, ceux qui aimeraient rester dans un périmètre purement sportif. Et pour vous montrer que les tacles peuvent être extrêmement appuyés, il faut que je vous fasse entendre ce sur quoi je suis tombé avant-hier dans le 20h de France 2. Une équipe de la chaîne était au Qatar et alors qu'elle donnait la parole à l'ingénieur qui a conçu le système de climatisation des stades à ciel ouvert et ultra polluant, voici la contre-attaque que j'ai brutalement entendue.
En France, de nombreux citoyens âgés sont morts récemment à cause de vagues de chaleur, je crois. La France ferait mieux de s'intéresser à ce genre de technologie pour faire baisser la température.
Evelyn, le Qatar a choisi de renvoyer la France dans ses buts et de lui balancer ses vieux morts. Des suites des épisodes de canicule prétendument mal gérés. Le niveau de cynisme était spectaculaire, mais le match sur le terrain de la communication bel et bien commencé. Alors, comment faire ? Comment réagir dans une pareille partie ? Eh bien, il y a eu ces derniers jours deux attitudes, deux styles de jeu radicalement opposés et ce télescopage-là m'a beaucoup intéressé. Mardi, interrogé en pleine conférence de presse par un journaliste du Parisien au sujet de la possibilité de porter un brassard arc-en-ciel pendant les matchs, c'est-à-dire de montrer sa solidarité avec les homosexuels passibles d'emprisonnement au Qatar, le gardien de but de l'équipe de France, Hugo Lloris, a répondu ceci.
Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement.
Le portier des Bleus a choisi de claquer la porte sur les doigts de tous ceux qui attendaient qu'il profite de l'exposition planétaire dont les champions du monde en titre vont bénéficier pour afficher une opposition visible au débordement du Qatar. Pas de polémique donc et profil bas. Mais hier soir, télescopage. Figurez-vous que je suis tombé sur un tweet signé Samuel Etienne.
Bonne réponse.
Le journaliste qui fait les belles heures de France Télévisions et de la plateforme Twitch a posté un long message, Louise Bernard vous en dit un mot tout à l'heure, pour expliquer qu'il ne relayerait pas sur sa chaîne les résultats de la Coupe du Monde. Il a évoqué les conditions de construction des stades, le sort réservé aux personnes LGBT, les questions environnementales et le triste sort qui est réservé aux femmes dans le pays. Mais surtout, il a mis en avant un argument qui m'a paru nouveau et extrêmement intéressant. Il a évoqué la possibilité que face à un boycott massif de l'événement, l'audience des matchs de foot à la télévision pourrait être sévèrement impactée au point que les diffuseurs voient leurs recettes publicitaires dégringoler.
Oui, bien joué.
Et il a terminé en concluant que face à pareille situation, la FIFA, la Fédération Internationale de Football, celle-là même qui a attribué l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Ils réfléchiraient peut-être à deux fois avant de s'asseoir sur le respect des droits de l'homme et de l'environnement, avant d'attribuer l'organisation de sa prochaine Coupe du Monde à n'importe qui. Lumineuse analyse qui méritait une plus grande audience.
Merci beaucoup Bruno Donnet, ça ne pouvait pas mieux tomber. On va continuer à parler foot avec Bichente et Lizarazu, je le précise. L'entretien a été enregistré avant-hier mardi, puisque Bichente et Lizarazu est aujourd'hui au Qatar.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Bichente et Lizarazu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Faut-il vous présenter l'une des figures de la mythique équipe de France, championne du monde en 98, championne d'Europe en 2000, titre avec le Bayern de Munich, 6 fois champion d'Allemagne et la Ligue des champions. Depuis 2009, vous êtes le consultant foot de TF1 après avoir passé 3 ans sur Canal. Et votre actualité, Bichente, évidemment, c'est la Coupe du Monde au Qatar qui démarre dimanche avec Qatar-Équateur, sera à 17h. Et puis les grands débuts de l'équipe de France, très attendus, mercredi 22 à 20h, France-Australie. Alors avant qu'on dise un mot du dispositif de TF1, question, comment vous abordez cette Coupe du Monde, non pas du point de vue footballistique, je vous demanderai tout à l'heure quel sort vous prévoyez pour l'équipe de France, mais du point de vue journalistique en tant que consultant?
Ben en fait, on analyse les équipes, mais je dois dire qu'on l'a fait, on commence à le faire que maintenant, parce qu'en fait, on était dans l'attente de la sélection de chaque équipe, avec les blessures, il y en a beaucoup, énormément, donc ça ne servait à rien de se préparer trop tôt. Mais là, d'ores et déjà, moi, je suis dans la préparation, en effet, du match Qatar-Équateur, donc un match très compliqué en tant que commentateur, parce qu'on connaît quasiment très peu ces joueurs, particulièrement le Qatar. Ouais. Donc, on est dans les recherches des clubs respectifs dans lesquels ils jouent. Voilà, on est aussi dans, comme c'est le match d'ouverture, dans la cérémonie d'ouverture. Et puis derrière, il y a l'équipe de France, donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple, même si il faut travailler sur l'Australie, qui n'est pas une équipe que l'on a l'habitude de commenter. Par contre, le Danemark, ben, on les a commentés dernièrement, donc on les connaît très très bien, et là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, il y a des matchs, quand il y a les nations, les grandes nations, c'est très facile, on connaît tous les joueurs, et quand c'est des plus petites nations, là, il faut faire un travail de recherche plus important.
Alors, la Coupe du Monde va se dérouler du 20 novembre, c'est-à-dire dimanche, jusqu'au 18 décembre pour la finale. TF1 va diffuser les 28 plus belles affiches en exclusivité, en clair évidemment. Évidemment, l'intégralité des matchs de l'équipe de France. Vous serez à chaque fois, Vicente, au micro pour l'équipe de France, évidemment. Et pour les autres matchs, lesquels allez-vous suivre ?
Alors, je ne les ai pas tous dans le détail parce que on va en avoir beaucoup. Il y en a 20. Il y en a 20, donc je n'ai pas la liste avec moi. Mais on
vous allez en faire, vous allez en faire 20 sur 28.
On en fait 20 sur 28, exactement.
Voilà.
Et l'autre équipe, c'est l'équipe avec Rudy Garcia.
Ouais.
Donc, c'est réparti comme ça. Donc, on va faire énormément de matchs sur cette compétition, plus que d'habitude par rapport à une Coupe du Monde, parce qu'il n'y a pas la problématique de logistique de déplacement,
ouais.
Comme on a pu l'avoir en Russie notamment, ou sur la dernière Coupe du Monde au Brésil ou en Afrique du Sud. Là, on est à Doha, c'est grand comme l'île de France, le Qatar,
ouais.
Et il n'y a pas de déplacement. Donc, on va énormément commenter quasiment tous les jours ou tous les deux jours.
Puisque vous en parliez, le second binôme avec l'entraîneur Rudy Garcia comme consultant, ce sera Julien Brun qui sera au micro. Alors, je l'ai dit, vous êtes un ancien joueur professionnel, vous faites partie de la mythique équipe de France de 98. Pourquoi j'ai raconté cette partie de votre CV ? Parce que le capitaine de cette équipe de France, c'est devenu le sélectionneur d'aujourd'hui. Vous êtes un proche de Didier Deschamps. Comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Comment on fait pour être libre de parole avec votre pote qui a fait la sélection et qui parfois fait un choix qui ne vous plaît pas ?
Ça se passe bien parce qu'il est intelligent, parce que je ne suis pas non plus moi dans l'exagération.
Ouais.
Mais par exemple, en ce moment, il y avait le débat de la défense à 4.
Ouais.
Et moi, depuis très longtemps, je
vous militez en faveur de la défense à 4 ?
Je militais pour cette défense à 4 et je militais aussi pour le retour d'Olivier Giroud. Et sur ces sujets-là, il était un petit peu bloqué, Didier. Puis finalement, j'ai eu la belle surprise de voir qu'il avait changé d'avis. Et que donc...
Attendez, c'est une surprise ou vous vous êtes parlé au téléphone ?
Ah non, vraiment pas. Alors, je peux vous dire un truc, c'est que on peut avoir des conversations et je ne me sers pas du tout des conversations que l'on a, parce que pour moi, il y a l'amitié, il y a le travail, c'est deux choses qui sont complètement différentes.
Mmh.
Mais il peut arriver aussi qu'on ait des avis divergents, et sur le sujet de la défense, je lui ai dit à maintes fois en privé ce que j'en pensais, et on a eu des débats très très techniques ensemble. Moi, je lui disais, voilà pourquoi j'aime pas en tant que joueur de couloir cette position de piston que je trouve un peu bâtarde. Et on a eu des conversations, mais très très cordiales, mmh. très sympathiques et très techniques.
Ouais.
Et donc il peut entendre ça, ouais. il peut entendre parce qu'on parle de foot en fait. Hein.
Bien sûr.
Et après, je comprends que c'est compliqué d'être sélectionneur, hein. C'est compliqué parce que c'est des choix à faire. Et moi, c'est peut-être plus facile parce que j'ai un peu plus dans le recul. Et donc, moi, j'accepte qu'il puisse changer d'avis et qu'on puisse ne pas être d'accord. Et lui aussi, il accepte ça, que parfois, ouais. on ne puisse pas être d'accord, tant que ça reste du foot, en fait.
Hein,
et qu'on
compris.
En parle de façon très tranquille et conviviale. Et c'est toujours le cas, parce que moi, le respect, il sera toujours là. Et Didier, il le sait, et donc ça se passe bien, même quand on n'est pas d'accord.
Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous censurer, soit pour un choix de l'entraîneur, ou même un choix ou une action des joueurs ? Est-ce que vous mesurez vos propos quand vous êtes en direct, ou est-ce que vous êtes, je ne vais pas dire en roue libre, parce que ce n'est pas ce que vous êtes, mais c'est assez ouvert.
Ouais. Je dis ce que j'ai à dire. Après, moi, je suis dans le contrôle, je ne suis pas dans l'excès. Donc, être en roue libre, ce n'est pas ma nature. Mmh. Et puis, on ne prend pas en otage une antenne. On doit être respectueux des gens, on doit être respectueux des téléspectateurs, on doit être respectueux des acteurs. Moi j'ai du respect pour le sélectionneur, pour les joueurs, parce que j'ai été joueur, et donc je vais dire les choses, mais avec pédagogie, avec respect, hein, ouais. Voilà, c'est la base.
Vous allez participer à d'autres émissions, comme le MAC d'après-match qui sera présenté par Denis Brognard, ou alors Téléfoot La Quotidienne, ou simplement vous serez focus sur les matchs ?
On va participer au MAC de Denis, ça c'est certain, puisqu'ils seront liés au match de l'équipe de France, et nous on restera après les matchs de l'équipe de France pour conclure un petit peu notre sentiment sur le match, et sur les téléfoot aussi, peut-être quelques-uns, pas tous, hein, parce que comme on fait 20 matchs, on va être quand même énormément sollicité déjà par ces matchs.
On a des chances, c'est la France.
D'être champion du monde ?
Ouais.
Oui, bien sûr, on a des chances d'être champion du monde, d'avoir la troisième étoile, on a une attaque de feu.
Mmh.
Le
grand public va pas être content, parce que ma maman, si elle était là, elle dirait oh là là, il y a que des gens que je connais pas au milieu de terrain. Rabiot, on le connaît, sinon Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Jordan Vertu, Eduardo Camavinga.
Ouais, c'est l'inconnu. Alors en attaque, on a tout ce qu'il faut,
ouais.
Mais au milieu, on est peu expérimenté. On a perdu Kanté et Pogba. C'est deux pertes énormes par rapport à l'expérience qu'ils apportaient sur le terrain, en leadership aussi. Ça sera Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot qui devraient les remplacer. 34 sélections pour Rabiot, je crois 17 pour Aurélien Tchouaméni. Donc c'est très peu et je ne parle pas des autres. Ils sont en dessous de 10 sélections en équipe de France. Ouais. Et au niveau international, sur une Coupe du Monde, évidemment que c'est très important d'avoir cette expérience-là. Donc on part un peu dans l'inconnu. Est-ce qu'ils vont être capables de se sublimer et d'être au niveau d'une Coupe du Monde ou pas? Et après, derrière, on a des petits problèmes de blessures, des joueurs qui reviennent de blessures comme Varane, comme Lucas Hernandez. Et on a perdu Kimpembe, qui lui avait un problème de tendon, il ne peut pas être là. Donc là aussi, petit point d'interrogation, plus par rapport à l'état athlétique. Malgré ça, j'ai de l'espoir, parce qu'on a une super attaque, mais il faudra que le milieu soit au rendez-vous et que nos blessés soient à 100%.
Attaque incroyable, Benzema, Mbappé, Griezmann et Giroud sur le banc, vous l'avez dit. Alors, j'ai hâte de vous entendre commenter les pénaltys, parce qu'il y aura des pénaltys, ça ne manquera pas. On l'a oublié, mais pendant la Coupe du Monde 98, la France avait éliminé l'Italie au pénalty. Or, Vicente Lizarazu, vous aviez raté votre péno, et si Barthez ne sort pas ensuite celui d'Albertini, on aurait été éliminé. Question, il vous reste un souvenir de cette minute du pénalty raté ou pas du tout? Ou tout a été effacé par la victoire ensuite?
Bien sûr, ça a été effacé par la victoire en Suisse et puis la continuité, puisqu'on n'était qu'en quart de finale. Voilà, après, derrière, il y a la demi, il y a la finale, il y a l'apothéose, donc ça n'a pas du tout d'importance.
J'ai hâte de vous entendre. Vicente Lizarazu, un grand merci. Je rappelle, la Coupe du Monde au Qatar, c'est dimanche sur TF1, ça démarre avec Qatar-Équateur. Vous serez au micro à 17h et puis les grands débuts de l'équipe de France, ça sera mercredi le 22 à 20h, France-Australie avec Grégoire Margoton. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média.
Merci à vous.
Et je précise que les matchs seront également à suivre dans Europe 1 Sport. La Coupe du Monde de foot 2022 au Qatar est à vivre sur Europe 1. C'est la radio officielle du Mondial et on en est ravis. Culture Média continue évidemment après les infos de 10h. Notre invité, c'est André Manoukian. Il publie un nouvel album très personnel, jazz oriental. Le titre, Anouche, c'était le prénom de sa grand-mère. Je crois qu'elle ne savait pas jouer du piano. Et puis dans les indispensables, on parle d'opéra bouffe avec Offenbach et surtout avec Lord Autriche, qu'Offenbach n'est plus là pour en parler. Et Olivier Benkemoun va célébrer Jean Gabin. Jean-Luc Lemoine nous rejoint pour sa session de rattrapage. À tout de suite.